C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun et Arnaud Jouve.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Aujourd'hui, nous partirons au nord-est de l'Amérique du Sud, en Guyane, où la fièvre de l'or fait des ravages.
Les garimperos n'ont aucune confiance, ils gardent leur or sur eux et ne disent jamais combien de grammes ils ont. Parfois, ils cachent leur étui d'or dans la forêt. Et puis tu sais, ils ont même peur de dormir parce qu'ils gardent leur or dans leur étui accroché à leur bermuda ou autour du cou en pendentif. La mort sur les chantiers d'orpaillage, c'est tout ce qu'il y a de plus simple pour eux, mais moi, ça m'a traumatisé de voir tout ça.
Maria, que nous venons d'entendre et que nous retrouverons dans notre dossier sur l'orpaillage, fait partie de ces chercheurs d'or brésiliens venus chercher fortune en Guyane. Un sujet à suivre tout à l'heure dans la deuxième partie de ce magazine.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité avec nos deux invités et leur regard environnemental. Ibrahim El Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'ONG Mawasemkhair. J'espère que je prononce.
Mawasemkhair, qui veut dire moisson de la bienfaisance.
Et François Gémen, à vos côtés, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, qu'on appelle l'IDERI.
C'est ça.
Alors, pour commencer cette revue de l'actualité environnementale du jour, cette réunion qui vient de démarrer à Tokyo, une réunion de deux jours qui s'est ouverte ce matin en présence de 22 pays pour essayer de trouver un accord de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre. On est en plein dans les préparatifs, évidemment, de la réunion de Copenhague. Est-ce que c'est justement toutes ces négociations qui sont en train de se faire par rapport à Copenhague, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes inquiet? Enfin, quel est votre regard par rapport à ces négociations?
Bien sûr, c'est évidemment des négociations très, très importantes. Par rapport à Copenhague, il faut bien avoir en compte qu'il y a énormément de pression symbolique et que Copenhague est un gros enjeu symbolique. Et donc le poids d'un échec à Copenhague serait évidemment très important pour les négociations et la lutte contre le changement climatique, mais aussi peut-être plus important encore, un échec symbolique de la coopération internationale qui vraiment, à mon avis, serait très mal perçu et constituerait vraiment un gros frein à de futures initiatives. En soi, on peut imaginer que Copenhague ne soit pas, si Copenhague était un échec, que ça ne soit pas une vraie catastrophe et qu'on s'en remette autour de la table 3 mois plus tard et qu'on arrive à quelque chose 3 mois plus tard. Mais vraiment, s'il n'y a rien qui sort à Copenhague, là on aura un véritable échec symbolique de la coopération internationale et c'est ça qui me paraît vraiment très significatif. Alors maintenant, sur la réunion de Tokyo, c'est évidemment une bonne chose que les pays pollueurs se mettent autour de la table. Je pense qu'il faut surtout pas laisser.
Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne.
On les connaît, les usual suspects, comme on dit. Je crois qu'il faut surtout veiller à ne pas laisser hors jeu les pays en développement qui, demain, auront un rôle de plus en plus important à jouer dans ces accords sur le climat. Il ne faut surtout pas qu'ils se sentent hors jeu. C'était un des grands problèmes de Kyoto et je ne voudrais surtout pas qu'on fasse à nouveau la même erreur cette fois-ci.
Ibrahim El Ali, ces questions climat.
On a eu Rio, on a le protocole de Kyoto, maintenant on a Copenhague, et demain on aura peut-être Dakar ou Abidjan ou quelque chose d'autre en Afrique. De toute façon, les protocoles ne finiront jamais, puisque le problème du climat et du réchauffement climatique est maintenant, à l'heure actuelle où on parle, est la principale préoccupation, plus importante encore que tout ce qui est crise financière mondiale. Car ce qu'on a en ce moment, c'est vraiment une dégradation de l'environnement à une vitesse incroyable. Nous qui sommes plongeurs dans l'océan, on le voit. Nous qui sommes en Afrique, on le voit, la dégradation de la forêt, et il va à une vitesse incroyable depuis 200 ans que l'industrie est présente dans le monde occidental.
Autre sujet dans l'actualité française, et ça fait l'effet d'une petite bombe.
Le Figaro révèle les conclusions d'un rapport officiel daté du 23 janvier dernier, d'un rapport de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon lequel donc le maïs Monsanto 810, dont la culture est interdite en France, est sans danger pour la santé humaine et animale. Du coup, quelle attitude va donc adopter le gouvernement français? Le journal estime qu'il va devoir se rendre à l'évidence que rien ne s'oppose aux OGM, et là, Le Figaro prend donc parti. Il affirme que ce rapport donne raison à ce que disent, écrit-il, les scientifiques les plus avertis de notre pays depuis de nombreuses années, à savoir qu'ils sont bénéfiques pour la santé humaine. Le Figaro qui estime que dans ce débat sur les OGM, tout est politique, le progrès est souvent regardé comme suspect, écrit-il, et le terreau a été habilement cultivé par les batteurs d'estrade, les dévots du bio, les tenants de l'altermondialisme, pour que le greffon anti-OGM se développe. La raison va-t-elle enfin l'emporter, s'interroge Le Figaro. Voilà une information et une prise de position qui va certainement en entraîner d'autres.
Oui, c'est un extrait de la revue de presse de Frédéric Couteau. Alors messieurs, après ce rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ça va être difficile quand même pour Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de défendre la clause de sauvegarde devant la Commission européenne lundi prochain.
Mais oui, c'est clair que ça sera sans doute difficile et délicat pour lui. Maintenant, deux choses par rapport à ce rapport qui vient d'être rendu. D'une part, on a quand même un problème en France. C'est vrai pour les OGM, c'est vrai aussi pour l'industrie nucléaire. On a un problème d'une sorte de confusion des rôles entre le contrôleur et le contrôlé. Et donc la question de l'indépendance de ces rapports et de ces agences est à mon avis lourdement mise en question, même si je ne prétends pas qu'il soit à la botte du lobby nucléaire ou du lobby OGM dans ce cas-ci, il y a quand même des réseaux d'influence qui sont très importants et qui jouent. Deuxième élément, on dit aujourd'hui que ces OGM ne sont pas nuisibles pour la santé. Très bien, c'est possible, je ne suis pas spécialiste du sujet des OGM, mais je pense qu'il faut aussi garder en mémoire l'impact des OGM sur l'agriculture en général et la question de la contamination de certains plants agricoles par des semences OGM, et ça c'est un point qui me paraît très important et qui ne me paraît pas soulevé dans le rapport.
Ibrahim Ali.
Je viens d'arriver du sud Liban en ce moment même, et au milieu de mes collines d'oliviers et de cyprès, là où le Christ, Jésus-Christ, prenait son pain et le rompait, et partagé avec ses disciples, il disait « Ceci est mon corps, ceci est mon pain ». Mais ce pain a été fait avec du blé qui était naturel. Imaginez tout simplement que le pain du Christ était fait avec de l'OGM. Croyez-vous qu'il aurait dit que ce qui en mange aura la vie éternelle? Il a créé une sainte alliance avec ses disciples, comme l'alliance que tous les prophètes ont créée, comme Noé avec son arche, il a récupéré toute la biodiversité. Voici l'alliance qu'on a, c'est de sauver la nature en ce moment. Et croyez-moi, ce n'est pas le lobby des OGM qui vont nous faire plier. Parce que nous, là, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Sainte, il y a eu tous les écologistes qui ont créé un collectif. Si tous les mouvements écologistes, si toutes les associations créaient un collectif et tout simplement faisaient une pression pour que les produits OGM ne soient pas dans les supermarchés, on aurait plus de puissance que tous les gouvernements.
Alors justement, vous nous parlez du Liban, il y a un projet gigantesque en préparation au Liban, Nour International, une société de Beyrouth veut bâtir sur la Méditerranée un complexe touristique de 3,3 millions de mètres carrés qui aura la forme d'un cèdre. Alors j'imagine que vous avez dû suivre ce dossier. Le projet attend le feu vert de différents ministères, du président de la République, etc. Mais évidemment déjà les associations de défense de l'environnement s'inquiètent des conséquences de ce projet et notamment des millions de remblais, de déchets qui vont être déversés dans la mer pour la construction de cet édifice.
Si vous me donnez la parole sur l'écologie au Liban, je vais vous dire quelque chose qu'il faut bien retenir. Si vous descendez sur Google Earth et que vous descendez sur le Liban, vous verrez que tout autour c'est le désert, qu'il y a la mer à gauche, et tout autour c'est le désert. Le Liban est la capitale de la biodiversité de tout le Moyen-Orient. Récemment, vous parliez dans vos émissions des oiseaux qui venaient, qui voyageaient au Liban, et que c'était le plus grand réservoir aussi d'oiseaux. Mais il faut savoir que ce projet dont vous parlez... sur toute la côte libanaise, il y a des plantations de bananiers et tout ça, et tout le réservoir de l'eau il se trouve là. Il faudrait décaler ces bananiers un peu plus vers la frontière israélienne, parce que toute l'eau, elle est puisée pour aller de l'autre côté, et justement créer ici tout un parc qui sera plutôt éco-touristique, puisque respecter la biodiversité au Liban, c'est faire un cadeau à toute l'Union pour la Méditerranée.
Pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
I'm gonna
Anne dans C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Et aujourd'hui, c'est l'Asie. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Et on commence par cette nouvelle qui nous vient des Philippines où près de 200 dauphins ont échoué près du rivage.
Oui, ça ne va pas fort pour les dauphins philippins, c'est le moins qu'on puisse dire. Les photos sont impressionnantes, 200 à 300 hein, même cétacés ont été découverts mardi à 1500 mètres du rivage dans la province de Bataan. C'est à 100 km à l'ouest de Manille, donc la capitale. C'est très impressionnant, surtout, en tout cas ça ne passe pas inaperçu. 300 cétacés, on voit les ailerons hein, qui dans la mer et c'est en eau peu profonde. Donc effectivement, on les a vus, peut-être vous les avez vus à la télé. Les images ont fait le tour du monde. Une vaste opération a été déclenchée, une opération de sauvetage. Des centaines de pêcheurs, des villageois se sont lancés à l'eau et en s'agitant, en tapant dans les mains pour repousser les dauphins. C'est la première fois, en tout cas, qu'un groupe aussi important s'échoue sur le rivage. À cela, deux explications. Le groupe suivait peut-être un chef de file malade, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est d'ailleurs l'hypothèse qui est pour l'instant retenue. Un séisme sous-marin aurait endommagé le tympan des dauphins. Et quand un dauphin n'entend rien, il paraît qu'il perd le sens de l'orientation.
Alors difficile de parler dans un tel vacarme. Nous sommes à présent dans les rues de Bombay. On l'évoquait hier, la capitale économique de l'Inde veut lutter contre le bruit, Stéphane.
Oui, c'est ça. Tendez l'oreille. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Bombay, mais je peux vous dire que quand vous êtes de passage, la pollution sonore est difficilement supportable. Alors on imagine ce que c'est quand on vit cela au quotidien. Je vous ai ramené le bruit d'une rue. Ici, une rue animée du centre-ville, près de la gare Victoria. On entend dans l'ordre un aiguiseur de couteau et sa meule, le presseur de jus de canne, un klaxon chèvre, hein, les klaxons des triporteurs parfois imite la chèvre, les cloches du temple hindou, la machine à écrire de l'écrivain public, le chant des vendeurs à la criée, le bruit d'un chantier, le marteau du cireur de chaussures, je vais m'arrêter là. Enfin, il y a évidemment dans ces rues, ça grouille de monde et il y a beaucoup de bruit. Tout ça mis bout à bout, en tout cas, ça finit par faire mal aux oreilles.
Alors que font les autorités ?
Ben pas grand-chose. Une journée sans klaxon a été décrétée. L'utilisation des haut-parleurs a été proscrite, mais ça ne suffit pas. Le bitume gagne du terrain. L'asphalte est toujours plus gourmand. Et ce sont aujourd'hui les habitants, des militants anti-bruit qui se battent. Ce qui nous vaut d'ailleurs cette très jolie chronique dans le Times of India. Une chronique intitulée « Les sons qui disparaissent ». Car oui, forcément, quand le marteau-piqueur prend le dessus, eh bien ce sont les oiseaux. Hein. Il y a beaucoup d'oiseaux encore au Liban. Ben là-bas, à Bombay, on n'entend plus le chant des oiseaux, paraît-il.
Alors on repart à la mer, ça se passe en Australie cette fois où un requin s'est aventuré jusque dans la rade de Sydney.
Là encore c'est très surprenant, très rare en tout cas d'après les médias locaux. Les requins s'aventurent dans la baie de Sydney et croquent un plongeur, hein, c'est ainsi que titrait le Sydney Morning Herald. Le plongeur en question appartient à la marine nationale australienne. Il a été mordu méchamment au bras et à la jambe droite. Et l'ironie de l'histoire c'est que ce plongeur se trouvait là dans le cadre d'un exercice antiterroriste, donc tout près du célèbre opéra de la ville. Complètement marteau ce requin. Que faisait-il si près du port? On a demandé les raisons de sa présence à Bernard Serré. Bernard Serré, c'est un chercheur à l'Institut de Recherche et de Développement et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
D'une manière générale, les attaques de requins sont assez peu nombreuses dans le monde puisque c'est quelques cas uniquement chaque année avec moins d'une dizaine de cas mortels. Alors à Sydney, il y a des requins puisqu'on est en zone tropicale, donc il y a des eaux chaudes qui arrivent. En ce moment, il y a les rencontres qui augmentent parce que c'est l'été et que les Australiens fréquentent la mer. Mais malgré ça, on peut dire que la plupart des rencontres entre l'homme et le requin se terminent mal pour le requin.
Alors, l'une des explications qui a été donnée, Stéphane, c'est une rupture de la chaîne alimentaire. Moins de poissons et les requins ont faim.
Cette théorie avancée par certains médias n'a pas été vérifiée scientifiquement. Hein, c'est ce que nous a expliqué Bernard Serré. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de requins qu'avant. Un plan d'action requin a été lancé depuis longtemps en Australie quand même. En Australie, il y a des parcs hein, naturels marins pour préserver les requins, et ce plan d'action a été copié. Hein, c'était au début de la semaine. Vous l'avez peut-être vu, la Commission européenne a lancé aussi un plan de sauvetage des requins. Beaucoup de gens assimilent les requins avec le cinéma plus qu'avec les tables de restaurant. Or, il s'avère que l'homme est plus une menace pour les requins que les requins ne le sont pour nous, les hommes, dit le commissaire européen à la pêche.
Merci Stéphane Lagarde.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Alors, un requin qui rentre dans la rade de Sydney pour se nourrir, signe que les choses vont peut-être pas très bien. Ça vous parle, cette information?
Si c'est évidemment un problème de surpêche, je pense qu'on touche à un enjeu fondamental qui parfois d'ailleurs est occulté par la question du changement climatique, alors qu'aujourd'hui les problèmes de la surpêche, et notamment du thon rouge en Méditerranée, est un problème important. Et donc je pense que c'est une histoire qui a aussi des échos chez nous, et que la surpêche du requin chez nous peut être tout à fait transposée à la question du thon rouge ou d'autres poissons, et que la surpêche, je pense aussi aux baleines bien sûr, est un enjeu important qu'il ne faudrait pas essayer d'occulter par le changement climatique. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi d'autres problèmes auxquels il faut prendre attention.
Je crois que maintenant on commence à avoir aussi des requins terroristes. Bon, ce que je veux souligner surtout, c'est que vous savez, depuis 1991, il y a eu 17 000 milliards de dollars qui ont été mis pour la guerre et qui ont été perdus pour la guerre au Moyen-Orient. Maintenant, la catastrophe, on a un spécialiste à côté de nous, la catastrophe du réchauffement climatique, s'il y avait une élévation de 1 mètre d'eau, ferait que toutes les terres basses seraient englouties dans l'eau. Donc c'est beaucoup plus grave que toutes les guerres nucléaires qui puissent exister. Je pense que ça vaudrait le coup que toutes les nations maintenant utilisent ces moyens financiers qui existent, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas, pour les mettre pour la préservation de l'environnement dans la planète.
Alors Ibrahim El Ali, vous êtes fondateur de l'ONG Moisson de la Bienfaisance, hein, je vais le dire en français, c'est moins risqué. Ça consiste en quoi, votre ONG?
Je travaille beaucoup au Liban sur la préservation de l'environnement, mais surtout sur toutes les masses arabes qui en général sont un comportement qui est très proche de l'écologie, mais qui n'en ont pas conscience. Par exemple, chez nous, au Liban, on a déjà la récupération d'eau de pluie, on a déjà les chauffe-eau solaires sur nos toits, on a beaucoup les lampes, dont pas les lampes blanches à économie d'énergie, on les a toutes dans nos maisons. Donc, le Libanais a déjà un comportement écologique sans le savoir. Donc, je travaille beaucoup sur tout l'Union pour la Méditerranée, pour la préservation de l'environnement. Mais je voudrais revenir, si vous permettez, juste sur un petit détail, rapidement. Récemment, on a dit que la taxe professionnelle allait être supprimée et qu'on allait utiliser la taxe carbone pour financer les crèches d'école et tout. Si tout ce qui est récupération de taxes autour de l'environnement n'est pas destiné à l'environnement, on n'a rien fait. Mmh. On n'a absolument rien fait.
François Gemène, très rapidement, vous, votre actualité?
Alors, notre actualité, c'est le lancement d'un vaste programme sur l'adaptation à l'IDRI, donc l'Institut de Développement Durable et de Relations Internationales, qui a été longtemps un aspect un peu mis en recul par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On constate aujourd'hui que, comme l'environnement se dégrade à une vitesse de plus en plus rapide, les populations doivent s'adapter, et que donc il y a un urgent besoin de recherche sur la question, et aussi de faire percoler cette recherche jusque dans les négociations politiques.
Bah, vous viendrez nous en parler.
Avec plaisir.
Et maintenant, c'est le moment d'écouter la nature, aujourd'hui des oiseaux du Nicaragua à New York.
Écoute.
Voilà, c'était les oiseaux à New York. C'est pas du vent, on revient juste après un bref rappel de l'actualité. À tout de suite.